Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le matin des musiciens du mercredi. Et bonjour à vous, public du studio 106 ici présent. Aujourd'hui, c'est un petit événement dans cette émission. Il a fallu attendre quoi ? 390 émissions avant de le voir en chair et en os, celui dont j'ai tant parlé depuis 9 ans, dès lors que nous parlions de Schubert, des sonates, des impromptus, des leaders. Combien de disques j'ai passé de lui ? C'est un ami de longue date, ça fait 22 ans qu'on se connaît. Et c'est surtout un des artistes majeurs du lead et de l'opéra de ce dernier quart de siècle, de ces 30 dernières années. Je voudrais que vous réserviez un triomphe ici, chers amis du Studio 106, à Wolfgang Holzmaier. Deux émissions avec lui. La semaine prochaine, ne manquez surtout pas son domaine d'élection, ce qui l'a fait connaître dans le monde entier, les leaders de Schubert. Nous présenterons quelques-uns de ces leaders, La jeune fille et la mort, par exemple, ou bien Die Taubenpost, La colombe messagère. Mais aujourd'hui, c'est un autre répertoire dans lequel Wolfgang Holzmaier excelle. Il l'a révélé d'ailleurs à Paris, je me souviens, il y a peut-être une quinzaine d'années, 15-20 ans, avec des forêts magnifiques. Il a d'ailleurs laissé un enregistrement somptueux avec Gérard Vis de mélodies de Duparc et de forêts. Alors donc, c'est le répertoire de mélodies françaises et nous allons vous interpréter dans quelques instants les histoires naturelles de Maurice Ravel sur les textes de Jules Renard. Alors en préambule à cette présentation, je voudrais vous lire les deux pages qui sont comme un prélude à ces portraits d'animaux de compagnie ou d'animaux sauvages ou d'animaux de la ferme. Ces portraits qu'a écrit avec sa précision légendaire l'écrivain Jules Renard. Alors ce sont des tout petits fragments, ça peut aller de quelques mots à une ou deux pages. Et le prélude s'intitule « Le chasseur d'images », ce qu'il était au fond Jules Renard quand il était dans sa campagne du Morvan, à Chitry, dont il était le maire. Il se promenait, il aimait regarder le travail des paysans et il aimait se fondre avec la nature, peut-être un trait commun avec Schubert. Alors voici le chasseur d'images. Il saute du lit de bon matin et ne part que si son esprit est net, son cœur pur et son corps léger comme un vêtement d'été. Il n'emporte point de provisions. Il boira l'air frais en route et reniflera les odeurs salubres. Il laisse ses armes à la maison et se contente d'ouvrir les yeux. Les yeux servent de filet où les images s'emprisonnent d'elles-mêmes. La première qu'il fait captive est celle du chemin qui montre ses os. Cailloux polis et ses ornières, veines crevées entre deux haies riches de prunelles et de mûres. Il prend ensuite l'image de la rivière. Elle blanchit au coude et dort sous la caresse des saules. Elle miroite quand un poisson tourne le ventre, comme si on jetait une pièce d'argent. Et dès que tombe une pluie fine, la rivière a la chair de poule. Il lève l'image des blés mobiles, des luzernes appétissantes et des prairies ourlées de ruisseaux. Il saisit au passage le vol d'une alouette ou d'un chardonneret. Puis il entre au bois. Il ne se savait pas doué de sens si délicat. Vite imprégné de parfums, il ne perd aucune sourde rumeur et pour qu'il communique avec les arbres, ses nerfs se lient aux nervures des feuilles. Bientôt, vibrant jusqu'au malaise, il perçoit trop, il fermente, il a peur, quitte le bois et suit de loin les paysans mouleurs, regagnant le village. Dehors, il fixe un moment, au point que son œil éclate. Le soleil qui se couche et dévêt sur l'horizon ses lumineux habits, ses nuages répandus pêle-mêle. Enfin, rentré chez lui, la tête pleine, il éteint sa lampe et longuement, avant de s'endormir, il se plaît à compter les images. Dociles, elles renaissent au gré du souvenir. Chacune d'elles qui s'agite en éveille une autre, et sans cesse leur troupe phosphorescente s'accroît de nouvelles venues, comme des perdrix poursuivies et divisées tout le jour, chantent le soir à l'abri du danger et se rappellent au creux des sillons. Les histoires naturelles de Maurice Ravel sur un texte de Jules Renard, vous entendrez le paon, ensuite le grillon, puis le cygne, le martin pêcheur et la pintade. Wolfgang Holzmeier, ici au studio 106 de France Musique.
Encore une fois la cérémonie. Le secte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. D'abord, il ratisse ses étroites allées de sable. Il fait du brin de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grandeur propre à le harceler. Il se repose. Sa minuscule montre. A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps, il tourne sa clé dans la serrure. Il écoute, point d'alarme dehors, mais il ne se trouve pas en sûreté. Et comme par une chaînette dont la poule est grosse, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Se tresse comme des doigts en l'air et désigne la lune. Comme traîneau blanc de nuage en nuage, car il n'a faim que des nuages floconneux qu'il voit naître, bouger et se perdre dans l'eau. C'est le deux qu'il désire. Du bec, elle plonge tout à coup son col vêtu de neige. Puis, tel bras de femme sort d'une manche, il le retire. Il n'a rien. Il regarde. Les nuages effarouchés ont disparu. Ne reste qu'un instant désabusé, car les nuages tardent peu à revenir. Et là-bas, où meurent les ondulations de l'eau, en voici un qui se reforme. Il s'épuise mis à pêcher le vin reflet, et peut-être qu'il mourra victime de cette illusion. Avant d'attraper un seul morceau de nuage. Mais qu'est-ce que je dis? Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un verre. Il engraisse comme une oie. Mais je rapporte une rare émotion. Comme je tenais ma perche de ligne tendue, un matin pêcheur est venu. Il semblait une grosse fleur bleue au bout d'une longue tige. La perche pliait sous le poids. Les poules ne lui disaient rien. Brusquement, elle se précipite et les harcèle. Puis elle baisse sa tête, penche le corps, et de toute la vitesse de ses pattes maigres, elle court frappée de son bec dur jusqu'au centre de la roue d'une dinde. Cette poseuse l'agaçait. Ainsi, la tête bleuie, ses babrions à vif, cocardier, elle rage du matin au soir. Elle se passe sans motif, peut-être parce qu'elle s'imagine toujours qu'on se moque de sa taille, de son crâne jauve et de sa queue basse. Et elle ne
ne cesse de jeter un cri discordant qui perce l'air comme une poète. Parfois, elle quitte la cour et disparaît. Elle laisse au volaille pacifique un moment de répit. Mais elle revient plus turbulente et plus criarde et frénétique et se vautre par terre. Donc, la sournoise fait une farce. Elle est allée pondre son œuf à la campagne. Je peux le chercher si ça m'amuse. Et elle se roule dans la poussière comme une bossue.
Au studio 106 de France Musique, le baryton autrichien Wolfgang Holzmeier et moi-même avons interprété les histoires naturelles de Maurice Ravel sur ces petits textes en prose de Jules Renard, successivement le paon, le grillon, le cygne, le martin pêcheur et à l'instant la pintade. Merci cher Wolfgang d'être venu pour deux émissions, parce que la semaine prochaine, il s'agira de Schubert. Il y a longtemps que tu es intéressé par la musique française, tu es francophile, tu as même vécu quelques mois à Paris, il y a quelques années, pour t'imprégner justement peut-être de la langue. Et on a entendu dans tes intonations, mais aussi dans la manière dont tu fais sonner les mots, dont tu les fais résonner aussi entre eux, un véritable amour de notre langue. Et en plus, les histoires naturelles, c'est vraiment très, très, très difficile à apprendre, à mémoriser, à chanter.
C'est une chose des plus difficiles que j'ai jamais appris, les histoires naturelles. Et comme je te dis un jour, j'ai détesté cette musique, j'ai détesté la langue, j'étais absolument furieux, j'ai jeté la musique vers le mur et j'ai dit non, ce monsieur Ravel, c'est pas possible. Pour chanter ça, c'est impossible parce qu'il n'y a pas la mélodie, il n'y a rien du tout. Mais maintenant, je trouve ce cycle le chef-d'œuvre ou au moins un des chefs-d'œuvre de la musique française et de la mélodie française.
Alors, ces histoires naturelles, elles ont été écrites en 1907 par Maurice Ravel et c'est assez plaisant de savoir que Jules Renard n'était pas du tout content qu'on ose, qu'on se permette de mettre sa prose si musicale en soi, si raffinée, si directe en même temps, si précise en musique. Il disait, Jules Renard, de l'art du prosateur, que la phrase doit vibrer comme un fil de fer trop tendu. Doit vibrer court comme un fil de fer trop tendu. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement poétique, hérité peut-être d'une nostalgie romantique, alors que sa prose n'est absolument pas romantique, mais cette idée de se fondre dans la nature et d'écouter, et de regarder, et de ne rien faire d'autre que, et il le dit lui-même dans son Chasseur d'images, de vibrer à l'unisson de la nature. Et il me semble que Maurice Ravel a merveilleusement compris à la fois l'ironie qui affleure toujours dans ces petits textes de Jules Renard. Il a saisi aussi ce sens de l'ellipse, c'est-à-dire qu'on ne s'appesantit pas. Les mots sont d'une telle précision et résonnent en nous immédiatement. Et en même temps, Ravel écrit une musique absolument moderne, très audacieuse dans ses harmonies, nous allons le voir. Par exemple, On peut même dire que ces histoires naturelles sont un peu un laboratoire pour des œuvres à venir. Le début du Pan, si je rejoue quelques mesures du Pan, le début... Ce côté très balancé, ce rythme, cette scansion que nous entendons d'une manière imperturbable et qui va d'ailleurs se poursuivre à peu près pendant toute la mélodie, à quelques petits passages près, ce rythme, il va s'en resservir un peu plus tard, bien des années plus tard, plus de 20 ans plus tard, dans son concerto pour la main gauche, puisque c'est ainsi que le piano commence dans sa grande introduction, après les grandes octaves et les grands arpèges, il y a le thème proprement dit du concerto pour la main gauche, celui que l'orchestre a énoncé avant l'arrivée du piano. Je vous propose d'écouter ce thème du piano et c'est directement issu du Pan des histoires naturelles. L'entrée si caractéristique du piano dans le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, interprété ici par Leon Fleischer, l'orchestre de Boston dirigé par Sergio Commissiona en 1982. Je voudrais revenir à Jules Renard, au fond, parce que Jules Renard, il a commencé à écrire ses histoires naturelles en 1896 et en 1904, l'éditeur Flammarion en a fait paraître 70. Qui se sont appelés vraiment histoires naturelles, tout simplement, avec des dessins de Pierre Bonnard. Et je possède d'ailleurs une très jolie édition avec quelques dessins de Félix Vallotton. Voilà, donc c'est vous dire à quel point ces histoires naturelles ont essaimé et ont créé l'admiration par cette concision et cette poésie qui émane de ces textes. Mais simplement, Ravel ignorait que Jules Renard n'aimait pas du tout la musique dite savante, dite classique. Il s'ennuyait prodigieusement quand il allait à l'opéra. Il partageait son temps entre Paris, les théâtres. C'était un auteur dramatique, hein, Poil de Carotte notamment. Les théâtres, il faisait un peu de critique littéraire. Il a fait plus tard partie de l'Académie Goncourt. C'était un demi-parisien et un demi-campagnard. Il n'aimait rien tant que retourner dans son Morvan et d'être justement près de ses administrés, parce qu'il était maire de Chitry. Et alors quand Ravel est arrivé pour lui demander l'autorisation de mettre quelques-unes de ses histoires naturelles en musique, eh bien Jules Renard résume la scène dans son journal, dans son épais journal, qui est son chef-d'œuvre posthume. Jules Renard reçoit la visite d'un ancien directeur de la Revue Blanche, Thaddée Nathanson, et c'est ainsi qu'il note un dialogue dans son journal. Thaddée Nathanson me dit « Un monsieur veut mettre en musique quelques-unes de vos histoires naturelles. C'est un musicien d'avant-garde sur lequel on compte et pour qui Debussy est déjà une vieille barbe. Quel effet cela vous fait-il ? Aucun. Ça vous touche, voyons. Du tout. Qu'est-ce qu'il faut lui dire de votre part ? Ce que vous voudrez, dites-lui merci. Vous ne désirez pas qu'il vous fasse entendre sa musique. Ah non, non. Et ça, c'est Jules Renard qui écrit, avec les guillemets, ce dialogue avec Thaddée Nathanson. Quelques jours plus tard, c'est Ravel qui rend visite à Jules Renard, et Jules Renard relate cette visite. Monsieur Ravel, le musicien des histoires naturelles, noir, riche et fin, insiste pour que j'aille écouter ce soir ses mélodies. Je lui dis mon ignorance et lui demande ce qu'il a pu ajouter aux histoires naturelles. Mon dessein n'était pas d'y ajouter, dit-il, mais d'interpréter. Mais quel rapport ? Dire avec de la musique ce que vous dites avec des mots, quand vous êtes devant un arbre, par exemple. Et Renard d'ajouter, je pense et je sens en musique et je voudrais penser et sentir les mêmes choses que vous. Il y a la musique instinctive, sentimentale, la mienne, bien entendu, il faut connaître d'abord le métier. Et puis la musique intellectuelle, Vincent d'Indy. Il n'y aura guère que des dindis ce soir. Ils n'admettent pas l'émotion qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas expliquer. Je pense le contraire, mais ils trouvent intéressant ce que j'ai fait puisqu'ils m'admettent. C'est très important pour moi cette épreuve. En tout cas, je suis sûr de mon interprète, elle est admirable. Jeanne Bathory. Quand on apprend les histoires naturelles, Wolfgang, on est déjà très surpris que ce soit de la prose. Et si c'est de la prose, pour parler comme Monsieur Jourdain, ce ne sont pas des vers. Et donc les règles de prosodie sont évidemment tout à fait différentes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Pour moi, c'était une expérience complètement nouvelle parce que, comme tu sais, j'ai chanté du Pâques, un peu Debussy ou un peu plus Debussy parce que j'ai chanté Pélias, j'ai chanté Chaussons et Forêts. Une chose comme ça, où on a composé la prose, je n'ai jamais rencontré. Pour moi, c'était très nouveau parce qu'il ne faut pas respecter les règles, par exemple, sur le E muet.
Dans le grillon, il ferme sa porte.
Il ferme sa porte. Et si on, par exemple, comparait à Pélias entre avec les mots « grand-père, j'ai reçu la lettre de mon père, une autre lettre, une lettre de mon ami Marcellus, etc. » Alors c'est une écriture complètement différente. Une autre chose qui me frappe et toujours avec Ravel, les histoires naturelles, et tu as dit que Jules Renard appelait Ravel un compositeur d'avant-garde. C'est très intéressant parce qu'à l'époque, 1906, 1905, 1907, on a pour la première fois écouté l'opéra Salomé de Richard Strauss, 1905. Schönberg a créé Das Buch der hängenden Gärten en 1907. Alors c'est la même année que Jean Bathory et Ravel lui-même ont créé les histoires naturelles. Alors c'est une époque très avant-garde.
Et je voudrais justement rebondir sur cette prosodie, cette prononciation, cette interprétation aussi de la musique, sur ce fameux Léon. Léon, c'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. En plus, des petits sous-entendus.
Par exemple, qui s'appelle sa fiancée, on voudrait autrement dit.
Oui, l'habitude, l'usage, la tradition, et puis la règle de la prosodie dans la poésie, c'est de dire sa fiancée. Et là, c'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Et d'ailleurs, non pas qu'il appelle le sa fiancée, qu'il appelle sa fiancée. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Tu as très bien fait
ça,
de dire
ça. C'est la langue parlée et ça, c'est la vraie nouveauté.
Oui, et effectivement, peu de lyrisme. Il y a une phrase très belle à la fin du Martin Pêcheur, quelques tout petits endroits dans le grillon qui sont purement mélodiques, une ou deux mesures dans le pan, mais c'est tout. Enfin, c'est vraiment une langue parlée mise en musique ou de la musique au service de la langue parlée. Alors, Léon, pour vous donner une idée quand même de la précision fanatique avec laquelle Ravel écrit sa musique, Donc il jette son cri diabolique. Alors au piano, on a un accord très dissonant qui n'est d'ailleurs pas si éloigné de l'Alborada del Grazioso, des miroirs. On a exactement les mêmes notes. C'est tout à fait les mêmes notes, sauf qu'elles sont plus aiguës. Et puis, Léon, c'est noté, Léon, fortissimo, traîné, avec un accent sur le fa, la première note, et... C'est toi qui me l'as fait remarquer hier quand on a répété. Il a écrit un petit trait qui rejoint, non pas une liaison, hein, un petit trait qui rejoint voilà, le fa et le ré, pour justement traîner, et qui est une espèce de cri d'animal plutôt que de la musique proprement dite. Donc ça, c'est magnifique comme écriture. On va faire une petite pause. J'ai réservé à Wolfgang une ou deux petites surprises tout au long de cette émission. Je voudrais qu'on écoute dans Le Grillon un duo très très célèbre, mais alors c'est une toute autre époque, une toute autre manière de dire la prose, de chanter, de jouer, enfin tout, vous allez l'entendre, puisque en 1950 le fameux duo Francis Poulenc et Pierre Bernac enregistrait les Histoires naturelles. Voici Le Grillon par nos deux compères.
L'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. D'abord, il ratisse ses étroites allées de sable. Il fait du branc de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler. Il se repose. Puis il remonte sa minuscule montre. A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps, il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute, point d'alarme dehors. Mais il ne se trouve pas en sûreté. Et comme par une chaînette dont la poulie grince, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune.
Le Grillon, extrait des Histoires naturelles de Maurice Ravel, interprété par Pierre Bernac et le Francis Poulenc au piano en 1950. Je suis toujours étonné quand je l'entends ou je réentends ces enregistrements qui évidemment témoignent d'une époque. Mais Poulain, qui avait un côté canaille dans sa musique, pouvait vraiment décrire par la musique les bals à Joinville-le-Pont et vraiment les voyous des rues et en même temps écrire le dialogue des Carmélites. Mais dès qu'il aborde la mélodie avec Bernac, on a l'impression d'un salon bourgeois où tous les gens tiennent un service en porcelaine de Limoges avec le petit doigt en l'air. C'est d'un précieux et d'un exagéré. Et justement, toute l'audace de cette œuvre, et on vient de le dire, Wolfgang vient de le dire, cette prose sans les e muets et à la limite sans les r roulés, là vraiment, c'est presque ramener Jules Renard à sa campagne bourguignonne du Morvan. C'est presque avec l'accent bourguignon d'un Parisien. Je trouve qu'il y a un hiatus entre ce que nous dit cette musique de révolutionnaire en 1907 et la manière dont trop longtemps, pendant des générations, on l'a interprétée, c'est-à-dire salonnarde. Ça n'enlève rien, évidemment, à la personnalité, au talent de Pierre Bernac et évidemment pas de Poulenc. Moi, j'adore Poulenc. Un mot, Wolfgang.
Moi, je ne peux pas croire dans cette interprétation à côté de la prononciation, parce que pour moi, le grillon est le silence composé. Et ici, on a beaucoup de crescendo, on a entendu beaucoup de crescendi et tout ça, et ça, ce n'est pas dans la musique. Alors, je ne peux pas croire dans ça.
Il faut dire les nuances. Hein. Les nuances de Ravel pour la partie de piano, en tout cas, c'est 2P, pianissimo, 3P, pianississimo, 4P, pianississimo, 4P. Et par exemple, c'est d'abord très difficile à jouer très très pianissimo parce qu'il y a quand même beaucoup de notes, que ça va vite. Mais on doit vraiment diminuer, puisqu'ensuite, avec 3P, pianississimo, le chanteur dit « on n'entend plus rien ». Et c'est d'ailleurs cette manière qu'a Ravel de mettre en espace la musique.
Enfin. Et parce que le grillon est toujours si réduit dans le volume.
Il se met complètement au niveau
absolument.
Du grillon, Ravel. Totalement.
Il travaille avec frénésie, mais il est complètement tranquille.
Oui, et silencieux. Enfin, c'est quelque chose que l'oreille de Jules Renard a perçu, ce petit travail, ce labeur frénétique du grillon, mais la nôtre certainement pas. Et c'est justement là le génie de Ravel, c'est de s'être totalement mis dans la peau de Jules Renard, et donc au niveau du grillon, comme si Jules Renard avait la tête dans l'herbe. Il était fatigué un soir, il se couche dans l'herbe, et ses yeux, ses oreilles, et finalement tous ses sens sont totalement aux aguets, en éveil, pour suivre sur un espace de quelques centimètres carrés, et de faire un monde de ces quelques centimètres carrés. C'est ça qui est fabuleux. Alors, il y a un petit gag musical, je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer. Alors, c'est rien du tout, mais en même temps, c'est tellement Ravel avec son ironie et son humour. À un moment donné, il parle de la montre. Alors, vous entendez très souvent cette petite formule. Et donc, vous avez des la bémols, et puis... Ça, c'est la main droite, c'est des sols, et puis avec un fa, une petite dissonance, donc... Et vous l'entendez un peu comme un motif obstiné, et puis à un moment donné, il nous dit qu'il remonte sa montre. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir... On a... Donc, Ravel écrit un degré chromatique plus haut, parce que ça, c'était la montre avant le réglage, et puis la montre remontée. Je trouve ça délicieux, parce que c'est noté triple piano, pianissimo. On le perçoit à peine. Encore une fois, on le perçoit à peine.
Ce qui est génial aussi dans ce chef-d'œuvre, et Ravel a réussi de mettre en musique l'ironie, l'humour. On ne trouve pas beaucoup de leaders ou mélodies avec humour, avec ironie.
Ah oui, avec drôlerie, enfin, c'est même très drôle, la pintade, c'est
comme oui, mais le signe, la fin au second signe. Degré.
Évidemment, évidemment, c'est jamais vulgaire. Yeah. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, parce que ces histoires naturelles ont été relativement mal reçues par la critique, où on comparait avec Chabrier, qui lui avait fait une grosse farce,
oui, mais...
avec les dindons, la marche des dindons, etc. J'adore Chabrier, hein, tout le monde le sait ici, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux chez Chabrier, la marche des gros dindons. Et Pierre Lalot, qui était le critique très très influent à l'époque, qui a dit tant de mal de la mère de Claude Debussy, en a dit tout autant des histoires naturelles. Monsieur Ravel prétend avoir découvert quelque chose de lyrique dans la pintade ou le pan de Monsieur Renard. À mon sens, ce musicien subtil n'a jamais été à ce point égaré. Quand notre bon Chabrier écrivait une mélodie sur les dindons ou les cochons roses, il le faisait avec gaieté et se laissait aller à traiter le sujet comme une plaisanterie. Monsieur Ravel est constamment solennel avec les animaux de sa ferme. Il ne sourit même pas, mais nous délivre un sermon. Terrible, terrible.
Debussy était un peu jaloux, je pense. Et lui aussi, il n'était pas content avec l'ironie et tout ça. Et il a dit... Entre nous, est-ce que vous croyez sincèrement à la musique humoristique?
Et Dieu sait s'il en avait de l'ironie grinçante, Claude Debussy, mais probablement pas dans sa musique, il y en a très peu, finalement, très peu. On va passer au signe. Alors, le signe... Voilà, c'est noté lent par Ravel. Des musiques aquatiques, Ravel en a écrit quelques-unes. Alors évidemment, on pense tout de suite à Jeu d'eau. Mais comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'Alborada del Grazioso, extraite des miroirs, qui sont en gros contemporains de ces histoires naturelles, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre un peu du début d'une des pièces des miroirs, Une barque sur l'océan. Début d'une barque sur l'océan, extrait des miroirs de Maurice Ravel, interprété en 1967 par Samson François. Évidemment, les univers sont différents. C'est juste une analogie de sonorité plus que de caractère, parce que l'océan, comme son nom l'indique, ça n'est certainement pas une rivière sur laquelle coule calmement, glisse calmement le cygne. Le doux et calme, nous dit Ravel, très doux et enveloppé de pédales, est-il indiqué pour la partie de piano, pianissimo, encore un pianissimo, et encore des triples pianos, des pianississimo qui sont dans toute cette mélodie. Mais c'était simplement pour vous montrer que comment Ravel, et au début de cette barque sur l'océan, je trouve ça très frappant, comment il installe quelque chose de placide, de doux, de calme, qui semble intemporel, qui bouge, qui se meut, mais calmement, sans à-coups. Et c'est après que les choses se gâtent, à peu près là où j'ai arrêté la musique. Là, vraiment, c'est la barque sur l'océan. Et comme disait Sviatoslav Richter, le grand pianiste, quand je joue une barque sur l'océan, je ne vois pas la barque sur l'océan. Je suis tout au fond de l'océan et je lève la tête et je vois le tout petit point qui est à la surface de l'eau. Ce qui donne d'autres perspectives aussi pour trouver des sonorités. Alors là, c'est une pièce assez étale, ce signe sur laquelle on ne va pas s'apesantir. Je voudrais, parce que Wolfgang m'en a donné l'idée, c'est une très belle suggestion, vous faire entendre une mélodie de Samuel Barber, qui a été écrite au début des années 50, et qui s'appelle « Un signe ». Alors, ce n'est pas le texte de Jules Renard, c'est, et ça me fait plaisir d'ailleurs parce que c'est Wolfgang Holzmaier qui est là aujourd'hui notre invité, c'est Rainer Maria Rilke qui a écrit ce poème en français. Et vous allez entendre, Barber était très influencé par Maurice Ravel, vous allez entendre quand même une certaine parenté entre les deux musiques. Nous venons d'entendre un signe, une des pièces des Mélodies passagères, opus 27 de Samuel Barber, des mélodies qui ont été écrites, publiées au début des années 50, sur des poésies en français de Rainer Maria Rilke. Un mot, Wolfgang, peut-être, sur ces mélodies. Tu les as chantées ?
Plusieurs fois, mais je me rappelle... En première ligne du signe, et j'ai beaucoup aimé. Autrement, il n'y a pas de comparaison avec Ravel et Debussy. Mais quand même, c'est un cycle très important, je trouve, parce que c'est écrit par quelqu'un qui n'est pas français, qui n'était pas francophile.
Nous avons entendu Thomas Hampson et John Browning au piano. Oui, Samuel Barber, évidemment, qui n'était pas français. Alors nous allons maintenant nous pencher un peu sur le chef-d'œuvre, peut-être dans ce chef-d'œuvre, enfin la pièce centrale, névralgique me semble-t-il, qui est Le Martin Pêcheur, parce que si Ravel s'est mis comme Jules Renard au niveau du grillon et a réussi à rendre tout l'ouvrage du grillon perceptible à nos sens, alors là il y a avec Le Martin Pêcheur une sorte d'arrêt sur image que dit d'ailleurs très bien le texte de Jules Renard. On l'écoutera tout à l'heure dit par un comédien. Mais il y a aussi ces harmonies tout à fait étrange qu'on entend. Ou alors un peu plus loin. Alors les professeurs d'harmonie vous diraient que ce ne sont pas des accords si compliqués. D'ailleurs, c'est le cas. C'est simplement la superposition de la main gauche avec les accords composés de la main droite qui rendent les sonorités aussi mystérieuses. Tout ça, cela va sans dire, entre pianissimo et triple pianissimo. Vous avez par exemple un triple pianissimo subito ici. Et il faut attendre la toute fin de la mélodie avoir un semblant de mélodie de la part du chanteur. C'est peut-être la seule mélodie qu'il y a dans tout le cycle, enfin aussi étendue sur 5 mesures. On parle de 5 mesures. Ces accords, Ravel va les travailler, les malaxer. Il est très intéressé par tous ces frottements, à la fois très chromatiques. Alors chromatique, c'est ça la gamme chromatique. On passe de note en note, de do dièse, do bécar, si, si bémol, la bémol, qui est opposée à diatonique, notre gamme occidentale. Donc là, vous entendez quelque chose qui a une base chromatique, et puis il greffe des accords tout à fait étranges, des glissements et des étagements, parce qu'on arrive sur cette basse, ce si, et puis voilà cet accord pianissimo sur lequel la voix va émettre « ça n'a pas mordu ce soir ».
Et comme Ravel a composé par exemple dans le signe, l'élégance et la bêtise, dans le grillon, le silence, comme j'ai dit, ici il a écrit la lenteur. Il nous donne le temps de comprendre chaque accord.
Absolument. On ne peut plus lent, c'est ce qu'il a écrit, on ne peut plus lent. Mais avant de revenir à on ne peut plus lent, je voudrais vous faire entendre d'autres accords très magiques, ceux-là qui sont un tout petit peu plus tardifs dans la littérature de Ravel. C'est Gaspard de la Nuit dans le Gibet, la pièce centrale. Écoutez un petit extrait du Gibet interprété en concert en 1978 par Martha Argerich. On entend dans le Martin Pêcheur, c'est-à-dire exactement ce qu'on vient d'entendre dans le Gibet de Gaspard de la Nuit, ici joué par Martha Argerich. Ces accords, ils vont profondément influencer, faire réfléchir par leur sonorité, par ce qu'ils dégagent de mystère, de couleur, Olivier Messiaen. Certainement Dutilleux aussi, mais surtout, me semble-t-il, Olivier Messiaen. Alors, il y a profusion d'œuvres dans lesquelles j'aurais pu puiser. Je me suis limité à un prélude, parce que les préludes, au fond, c'est les années 20, la fin des années 20. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas 20 ans entre l'écriture des histoires naturelles et l'écriture des préludes pour piano d'Olivier Messiaen, autant dire que c'est de la musique totalement contemporaine. Il n'y a même pas une génération qui sépare la composition. Donc c'est comme si aujourd'hui un compositeur s'inspirait des dernières œuvres de Dutilleux, écrites il y a 15 ans ou 20 ans. Alors écoutez le début de Cloche d'angoisse et Larmes d'adieu, un des préludes d'Olivier Messiaen joué par mon camarade Roger Muraro. Cloche d'angoisse et Larmes d'adieu, un des préludes d'Olivier Messiaen, la fin des années 20, interprété par Roger Muraro. Et alors, pendant qu'on écoutait ces accords, certainement inspirés par l'écriture de Maurice Ravel, on a entendu le gibet, on a entendu évidemment le Martin Pêcheur qui nous occupe aujourd'hui dans les histoires naturelles, mais Wolfgang, en bon autrichien et amateur de Richard Strauss, et qui parlait tout à l'heure de Salomé, créé dans ces années-là, les mêmes années que les histoires naturelles, Wolfgang nous disait, mais ces petits accords qu'on entend là, ces petits clusters qu'on entend tout à fait dans le dessus du clavier, c'est Rosenkavalier, le chevalier à la rose, la présentation de la rose. Et... voilà, on a tous ces accords. Oui,
avec alors, Celeste.
Certainement, mais il y a aussi, je pense que quand Strauss a été représenté en France, il a choqué au sens positif, évidemment. Il a choqué toute une génération de compositeurs. Et même des compositeurs déjà âgés, ou en tout cas mûrs, comme Paul Dukas, ont reconnu le génie de Strauss, tout en restant prudent, cette prudence bien française, mais en reconnaissant le talent pour l'audace au bord de l'abîme, disait un peu Paul Dukas. Alors, le Martin Pêcheur, je voudrais qu'on l'entende cette fois proféré par un comédien qu'on n'attend pas dans ce répertoire. C'est un comédien qu'on a toujours vu jouer des rôles de Benet au cinéma, dans les films avec Louis de Funès notamment, Christian Marin, et qui, lors d'une interview à la radio, il y a certainement une trentaine d'années, a dit par cœur, comme ça, au débotté, d'une manière très naturelle, très spontanée, ces quelques mots qui composent le Martin Pêcheur. Et puis, juste après, on entendra là aussi un document de 1947, une des interprètes de Claude Debussy, une de celles qui ont fait connaître dans le monde entier la littérature française, de musique, et les mélodies notamment, Ravel, Debussy, Fauré, c'est Maggie Tate. Alors, le Martin Pêcheur dit et chanté.
Il y a le Martin Pêcheur,
c'est ça. Martin Pêcheur,
c'est superbe, le Martin Pêcheur. Je ne me souviens plus, si vous permettez, je peux vous le dire, mais je...
Ah oui, oui, vas-y.
Ça n'a pas mordu ce soir, mais je rapporte une rare émotion. Comme je tenais ma perche de ligne tendue, un Martin Pêcheur est venu s'y poser. Nous n'avons pas d'oiseau plus éclatant. Il semblait une grosse fleur bleue au bout d'une longue tige. Ma perche pliait sous le poids. Je ne respirais plus. Tout fier d'être pris pour un arbre par un Martin Pêcheur. Et je suis sûr qu'il ne s'est pas envolé de peur, mais qu'il a cru qu'il ne faisait que passer d'une branche à une autre. Maggie Tate, en 1947, accompagnée par Gerald Moore dans ce Martin Pêcheur, extrait des Histoires naturelles de Maurice Ravel. Alors, je disais tout à l'heure, on ne peut plus lent, c'est ce qu'indique Ravel, et qui va d'ailleurs influencer Messiaen, parce que combien de partitions de Messiaen, infiniment lent, le plus lent possible, extrêmement lent, là c'est on ne peut plus lent. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la musique occidentale où on voit une telle indication, hein, on ne peut plus lent. Alors peut-être en allemand, avec des compositeurs allemands, ça c'est possible, mais en tout cas, en français, je ne crois pas qu'il y ait avant un exemple similaire.
J'ai jamais vu.
Et on peut te croire, Wolfgang, parce que ton répertoire est tout à fait colossal en matière de mélodie ou de leader. On en reparlera peut-être avant la fin de cette émission. Voilà. Alors, là aussi, il ne s'agit pas pour nous de juger. On est en 1947. Madame Tate appartient à la génération des chanteurs, chanteuses qui ont connu Debussy, Ravel, Fauré, je crois aussi, et donc qui ont été accompagnés par des pianistes qui ont connu ses compositeurs. Alfred Cortot a accompagné Maggie Tate et bien d'autres, Gerald Moore, qui était déjà une génération après. Et donc, c'est une manière de chanter qui correspond parfaitement à ce qu'on faisait à l'époque. C'est qu'on ne donnait pas de concerts de mélodie, ou si peu. On faisait ça dans de grands salons, chez les Polignac, les Noailles, voilà, Poulenc, c'était les gens et les grandes familles qui fréquentaient. Et donc, c'était à l'intérieur de ces grands salons de musique où on pouvait entendre, encore dans les années 30-40, ces musiques. Et il me semble que toute une génération de chanteurs après la guerre a désembourgeoisé cette musique, lui a redonné un naturel, une modernité, enfin, s'est interrogé sur les audaces autant harmoniques que textuelles, rythmiques de ces musiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, un peu plus de 100 ans après leur création, ces histoires naturelles sont plus jeunes que jamais. Alors la pintade, on ne va pas s'y arrêter non plus très longtemps.
sauf pour dire qu'elle est extrêmement drôle. Là, il y a vraiment un humour, mais un humour de très haut vol, si je puis dire, en parlant d'une pintade. cette bossue, et puis la manière dont Wolfgang fait résonner certains mots, cette poseuse Lagacet au centre de la roue d'une dinde, et puis alors à la fin, évidemment, elle est allée pondre son œuf à la campagne. Et c'est tellement Jules Renard, hein, ce choix des mots, et puis cette distance, cet humour, cette tendresse, au fond, pour toute cette petite ménagerie campagnarde qui s'agite devant lui et qui vit sa vie, d'ailleurs, sociale aussi, hein, parce que c'est une manière de parler de la vie sociale humaine en regardant celle qui régit les animaux de ferme ou les animaux plus sauvages. Mais ce que je voudrais vous faire entendre, c'est une version orchestrée de la pintade, parce que Manuel Rosenthal, le grand chef d'orchestre, qui a été très proche de Maurice Ravel, a fait une magnifique orchestration de ces histoires naturelles que je vous invite à écouter. Et j'ai choisi là de vous faire entendre le chef d'orchestre et compositeur Bruno Maderna, qui dirige l'orchestre de la radio de Bavière en 1960 avec la grande mezzo Nan Merriman dans la pintade de Maurice Ravel. En 1960, en public à Munich avec l'orchestre de la radio bavaroise dirigé par Bruno Maderna, c'est Nan Merriman qu'on vient d'entendre dans la pintade des histoires naturelles de Maurice Ravel. Alors moi, je trouve cette orchestration quand même très intéressante, très colorée, très audacieuse aussi, beaucoup de percussions, on entend caisse claire, etc. Et en même temps, je me demande si c'est vraiment opportun d'orchestrer les histoires naturelles. La pointe sèche de Jules Renard, qui correspond tellement bien à cette écriture extrêmement précise et en même temps magique de Ravel, est-ce que tout ça ne se dilue pas un peu, ne se fond pas un peu dans la masse orchestrale? Et du coup, le côté pointu de la voix, les staccato de la voix, les accents sur les mots, cette poseuse, la gassette, est-ce que tout ça ne se perd pas au fond dans l'orchestre? Tu ne l'as pas chanté, toi, avec orchestre?
Non, moi non, je n'ai pas chanté, mais j'aimerais beaucoup. Mais peut-être la pintade ou le premier, mais je ne peux pas imaginer le grillon avec orchestre.
Alors peut-être juste un trio à cordes.
Je ne connais pas, le grillon est orchestré très riche ou...
Non, pas trop, c'est très très pianissimo, oui, très joliment fait.
Oui, mais ça doit être interprété dans une salle petite, je pense, dans un salon, mais pas dans le Carnegie Hall.
Alors, tu as parlé de Debussy, de la prosodie dans Péléas. Je crois que c'est le moment, à la fin de cette émission, de t'entendre. Moi, je me souviens avoir assisté à deux concerts. C'était une version présentée en concert de Péléas et Mélisande, version complète, évidemment, avec Bernard Haitink, qui dirigeait en 2000 l'Orchestre National de France. Et alors, tu avais pour partenaire des gens tout à fait sympathiques, hein, Anne-Sophie von Rotter, qui faisait Mélisande, Laurent Naouri, le mari de Nathalie Dessay, qui chantait Golo, Anna Scher faisait Geneviève, Alain Verne, Arkel, etc. Et tu avais le rôle-titre de Péléas, et je voudrais qu'on t'entende, c'est le début du deuxième acte de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, 1902 pour la création.
Je voudrais y plonger les deux mains. Où dis-moi que mes mains sont malades? Bonjour.
Au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé.
Oui.
Que vous a-t-il dit?
Rien. Je ne me rappelle plus.
Était-il tout près de vous?
Oui. Il voulait m'embrasser.
Et vous ne vouliez pas?
Non.
Pourquoi ne vouliez-vous pas?
Oh! J'y vais passer quelque chose au fond de l'eau.
Prenez garde, vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous?
Avec l'anneau qu'il m'a donné.
Ne jouez pas ainsi, au-dessus de l'eau si profonde.
Mais pas de tremblement.
Quand mes prix au soleil, vous étiez passé au glacier.
Il est tombé dans l'eau.
Où est-il? Où est-il?
Je ne le vois pas descendre.
Je crois l'avoir crié.
Là-bas.
Oui, oui, là-bas.
Oh, oh. Il est si loin de nous.
La première scène du deuxième acte de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, interprétée en concert en mars 2000 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, ce qui est devenu un coffret de disques chez Naïve. Wolfgang Holzmeier, Péléas, Anne-Sophie von Otter, Mélisande et l'Orchestre National de France dirigé par Bernard Haitink. Quand tu réécoutes cet enregistrement et que tu te souviens, c'était une prise de rôle, c'était la première fois que tu chantais Péléas ?
Non, c'était pas la première fois, mais quand je maintenant écoute la première fois et depuis 14 ans, je pense, c'était pas mal.
Quel était le travail avec Haitink? Comment ça se passait?
C'était fantastique et j'ai jamais eu un chef d'orchestre qui a donné tant d'intérêt aux couleurs orchestrales, c'était fantastique. Et aussi, la flousse, comment on se dit ?
La fluidité.
C'était très, 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 très satisfaisante.
Et émouvant, sans doute, très émouvant d'entendre ce tissu orchestral derrière
absolument.
Toi.
Absolument. Pour moi, c'était un des moments le plus précieux dans ma carrière.
Eh bien, la première émission avec toi, Wolfgang Holzmaier, va s'achever. J'aimerais participer aux applaudissements du public. Très grand honneur pour nous de te recevoir ici au Matin des musiciens du mercredi. Et en plus, tu es venu vraiment en ami et j'en suis très, très touché. La semaine prochaine, n'oubliez pas une émission autour de Lieder de Schubert, toujours avec Wolfgang Holzmaier. Et je voudrais remercier mon équipe aujourd'hui à la prise de son Jean-Michel Bernaud et Delphine Baudet, à la sonorisation du studio 106 Romain Lenoir, aux éclairages Olivier Dupontois et Gérard Savary. Le piano était préparé par Léo Duroy. Jean-René Bonissant m'a beaucoup, beaucoup aidé pour cette émission. Et la réalisation était due, bien sûr, à Marie Groux. Merci à vous, public du Studio 106, et à la semaine prochaine.